Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Je vous emmène pour une grande vadrouille jusqu'à 14h. On va écouter le monde changer avec d'abord deux destinations où l'élection présidentielle provoque des tensions. Les États-Unis, évidemment, avec ce dépouillement à rallonge qui a mis tout le monde sur les nerfs. Pour valider l'élection de Joe Biden, il faudra encore attendre l'examen des recours juridiques déposés par le camp Trump dans plusieurs États. Mais une chose est absolument certaine, l'Amérique est plus fracturée que jamais et en profondeur. Parole d'Américain dès le début de ses carnets. Autre élection présidentielle contestée par la rue, et cela depuis 3 mois déjà, celle d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie, un dictateur qui, après 26 ans de pouvoir sans partage, réprime son peuple qui lui demande de partir. Loukachenko a bouclé le pays depuis le scrutin de début août. Pourtant, vous allez entendre un reportage rare de l'intérieur. On sera dans les quartiers de Minsk, cœur de la résistance. Et pendant que le monde change, manifeste et compte les votes, chaque seconde, des bébés naissent partout sur la planète. Je reçois l'une des auteurs d'un joli livre, Maman du Monde, car il existe tellement de manières différentes d'aider les tout-petits à grandir. Au programme également, un roman américain avec Nicolas Caro, un petit détour par l'Autistan avec Joseph Chovanec, et l'heure sera passée à toute vitesse. Les carnets sont ouverts, dans quelques instants, on sera à Philadelphie.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France accompagne au quotidien ses clients et finance les projets du territoire pour une économie durable. La Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont des femmes et des hommes engagés qui agissent chaque jour pour être utiles à tous. Caisse d'épargne Île-de-France, le pari du développement.
Mon mac de préféré, c'est quand le lendemain, il n'y a pas école. Parce que le lendemain, il n'y a pas école. Et du coup, je peux même inviter un copain à dormir et manger en pyjama dans la cabane du salon. Et toi, c'est quoi ton mac de préféré?
Partagez des moments en famille avec le Happy Meal.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
Mercedes-Benz. Chez Mercedes-Benz, même si votre véhicule a plus de 6 ans, vous avez toujours droit aux mêmes privilèges, voire plus. Avec le programme Service Select, profitez toute l'année de 25% de remise sur l'entretien, les pièces d'origine et la main-d'œuvre. Car même après 6 ans, vous faites partie de la famille. Inscrivez-vous en ligne gratuitement pour activer vos avantages Service Select. Offre réservée aux modèles éligibles de plus de 6 ans hors AMG dans le réseau participant, conditions sur mercedes-benz.fr. Durant le confinement, nos ateliers restent à votre service. Tous ensemble, restons mobilisés.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Election Day, c'était mardi le 3 novembre, mais comme beaucoup le craignaient, le jour de l'élection se sera étiré tout au long de la semaine. Une participation record et la mobilisation des deux camps aura fait mentir les tendances données par la quasi-totalité des sondages ces dernières semaines. Une dernière étude pour NBC donnait 10 points d'avance au niveau national à Joe Biden et pourtant... Le Texas et la Floride sont restés rouges. Les fameux swing states ont oscillé des jours et des nuits le temps que les votes par correspondance fassent une différence. La vague bleue annoncée n'a pas eu lieu. Le Sénat était aussi censé basculer côté démocrate, encore raté. Et c'est une Amérique plus polarisée que jamais qui ressort de cette élection, avec la moitié du pays convaincue que l'autre moitié a volé la présidence. Deux Amériques, en fait, qui ne se comprennent pas. Écoutez par exemple la réaction de cet habitant de Brooklyn, à New York. Il est démocrate, mais n'arrive même pas à se réjouir de la victoire de son candidat Joe Biden.
Je ne vais pas me réjouir parce que 67 millions d'Américains pensent que ce président a fait du bon boulot. Je n'arrive pas à y croire. À l'époque, il y a 4 ans, je peux comprendre ceux qui ont perdu leur boulot à l'usine, des gens qui disent « personne ne s'occupe de moi ». Mais après 4 années de ça, et c'est OK, 4 années de mensonges de n'importe quoi. Oh, la pandémie, c'est un complot des démocrates. Ça va s'arrêter à Pâques. 200 000 personnes sont mortes et ça dérange personne, mais ça va, pas de problème. Séparer les parents et les enfants à la frontière, je ne comprends même pas dans quel tréfonds de haine on peut être d'accord avec ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce pays n'est pas ce que je pensais. Je suis très déprimé. Je ne vois pas quand on pourra être unis à nouveau. Même s'il y avait un nouveau 11 septembre à New York, la moitié du pays dirait sûrement que New York aille au diable.
Je ne comprends pas, répète incrédule cet électeur démocrate. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Ça fait 3 semaines que vous sillonnez l'Amérique et ces derniers jours, vous avez rencontré des gens en colère ou inquiets qui sont les témoins vivants et parfois les acteurs de ces divisions.
Oui, qui donne le sentiment, vous le disiez, de vivre dans deux mondes différents, deux Amériques qui ne se comprennent plus, comme si la victoire des uns menaçait le mode de vie des autres. Et on le ressent particulièrement en Pennsylvanie, par exemple, où Joe Biden l'emporte essentiellement dans les métropoles, alors que Donald Trump fait plus de 80% par endroit dans les campagnes ou dans les petites villes industrielles comme Kittanning, où j'ai passé 2 jours. C'est au nord de Pittsburgh, c'est une ville où beaucoup de gens vivent de l'acier, du gaz. Et j'y ai rencontré Lonnie, elle a 50 ans, elle gère une chambre d'hôte. Et elle a fondu en larmes en me parlant de la victoire démocrate qui se profilait avec la sortie des énergies fossiles qui est mise en avant par Joe Biden.
Ça me fait peur. Tout est parti. Et les forages gaziers sont la dernière chose à laquelle on a pu s'accrocher pour vivre. On a beaucoup souffert ici. Le charbon a fermé, les entreprises sont parties. On n'est plus qu'un squelette de ce qu'on était avant. Et je ne sais pas comment on survivrait s'ils nous enlevaient ça. Je suis désolée. C'est dur d'imaginer notre monde sous Biden. Son programme environnemental, ça veut dire qu'il n'y aura plus de travail pour les générations futures. J'ai peur pour l'avenir de ma petite fille ici.
La peur du programme de l'adversaire jusqu'à en pleurer. La division dans ces campagnes de Pennsylvanie, Théo, on la retrouve aussi dans le discours. L'idée que la victoire de l'adversaire n'est pas possible, sauf à ce qu'il ait triché, forcément.
Et oui, ça c'est la rhétorique de Donald Trump. Mais il l'a tellement martelé pendant 1 an et demi de campagne que c'est vraiment rentré dans l'esprit de beaucoup de gens. Et quand vous vivez dans une région qui vote massivement Donald Trump, que vous allez peu dans les villes qui soutiennent plutôt Joe Biden, et ben vous vous retrouvez conforté dans cette idée par tout votre environnement. Et c'est vraiment frappant quand on écoute Mike. Il est chauffeur poids lourd à New Stanton. C'est entre Pittsburgh et Philadelphie.
C'est impossible qu'il ait gagné la Pennsylvanie. C'est truqué à 110%. Si vous faites 60 km dans n'importe quelle direction ici et que vous comptez les panneaux Biden et les panneaux Trump, c'est un raz-de-marée pour Trump, un raz-de-marée. Je travaille avec 67 mecs ici et un seul vote pour Biden. Tous les autres, on a voté Trump. L'élection a été volée. Les bulletins par correspondance avec le Covid ont été remplis par les démocrates pour pouvoir se débarrasser de Trump. Beaucoup de gens ne veulent plus de lui, mais encore plus de gens veulent qu'il reste.
Voilà, ça fonctionne dans ce sens, mais aussi dans l'autre. Si les démocrates ont été aussi surpris du nombre de votes encore plus massif pour Donald Trump cette année qu'en 2016, 7 millions de voix en plus, c'est parce qu'à l'inverse, ils vivent souvent dans une autre forme de bulle qui les conforte dans l'idée que tout le monde déteste ce président hors norme.
Et au-delà de l'incompréhension qu'on a bien mesurée, il y a aussi plus que ça, l'injure, la haine aussi parfois qu'on voit à des sommets en ce week-end post-élection.
Oui, on arrive au paroxysme du climat qui a été créé par cette campagne électorale. Ça fait au moins 1 an et demi que tous les jours, quand ils allument leur radio, leur télé ou les réseaux sociaux, les Américains voient des clips électoraux qui dénigrent plus le candidat d'en face qu'ils ne donnent vraiment le fond des programmes. Et on en arrive au point que Jeff, un retraité de Floride, m'a raconté que ses voisins lui font maintenant des bras d'honneur quand il passe devant chez lui parce qu'il a affiché un drapeau Biden.
Ils soutiennent Trump. Ils passent devant et ils crient « communiste, socialiste ». Éduquez-vous un peu, franchement. C'est incompréhensible de voir des gens commencer à se crier des grossièretés. On n'a pas besoin de ça. On a tous le droit d'afficher nos couleurs. Ce voisin a un signe Trump. Et alors, il est américain, t'as le droit. Ne crie pas dessus. Il faut que la décence revienne. Je prie chaque jour pour que Biden gagne et qu'on revienne à la normale.
Voilà, le retour de la décence, de la mesure, je l'ai beaucoup entendu ces 3 semaines. Le besoin de sortir aussi de ces contenus polarisés dont je vous parlais. On ne sait plus qui croire. Les médias ne relaient pas les mêmes faits. En fonction des chaînes que vous regardez, vous n'arrivez plus à savoir ce qui est orienté, ce qui est manipulé ou pas. Même chose sur Facebook ou Twitter. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça vraiment. Et ça aboutit à une forme chez certains de nervous breakdown. Ils n'ont qu'une hâte vraiment, c'est que cette campagne se termine.
Bah justement, elle se termine dans un climat à la limite de l'affrontement. Vous avez vu à Philadelphie les militants des deux camps se faire face pendant plusieurs jours devant le bureau où étaient dépouillés les derniers bulletins avec des cordons de police au milieu.
Oui, pour éviter des affrontements, c'est assez surréaliste, mais parce qu'il y a des gens qui non seulement ne se parlent plus, mais sont carrément prêts à en découdre dans les deux camps. Au Texas, j'ai vu des miliciens noirs chasser un supporter de Trump de l'entrée d'un meeting de Kamala Harris, des gens vraiment en armes, grands fusils d'assaut, comme vous pouvez le voir parfois sur certaines photos. Et ces derniers jours à Philadelphie, j'ai rencontré cet homme, Dan, vraiment pas disposé à accepter une défaite du président sortant.
Si ça tourne mal, on sera là. Il y en a marre. Il y a deux mois, j'étais dans mon canapé à regarder la télé. Maintenant, je suis là, debout, prêt à me battre pour mon pays. La triche, les mensonges, les conneries. On a élu ce mec. Donc maintenant, on se lève. J'ai 52 ans, je vais à la muscu tous les jours. Je veux qu'on me rende mon pays ou alors c'est la guerre. Je suis prêt à me battre et on est des millions. Je n'ai pas d'arme à feu, mais si ça devient violent, s'ils veulent nous pousser à ça, j'ai ma caméra piéton fixée là. S'ils m'attaquent, je frappe en retour. Et je pourrai prouver que je n'ai fait que me défendre.
Un discours très effrayant, même si vous m'avez dit, Théo, que vous n'aviez pas non plus croisé des hommes armés à chaque coin de rue. Il y a cette fracture qui est très forte, mais ce n'est pas une violence latente.
Oui, comme toujours, on trouve une frange peu nombreuse mais radicale quand on tend son micro ici à ceux qui sont venus manifester leur soutien à l'un ou l'autre des candidats. Mais dans la majeure partie du pays, c'est vrai, l'immense majorité des partisans de Donald Trump à qui j'ai parlé acceptent ces résultats. Ils donnent rendez-vous dans 4 ans ou même 2 pour les élections de mi-mandat.
Et ceux qui connaissent bien Joe Biden semblent dire qu'il est l'homme de la situation pour apaiser et rassembler. Léa Pizarre le disait encore hier sur Europe 1. En tout cas, on mesure l'ampleur de sa tâche en entendant ces témoignages. Merci beaucoup Théo de nous avoir permis de les entendre, ces hommes et femmes, à l'aube d'une nouvelle présidence américaine. À très vite.
Merci à vous, à bientôt.
À suivre, encore un reportage exceptionnel. Je vous emmène en Biélorussie, un pays totalement bouclé depuis 3 mois, depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko, dont tout le monde, pour le coup, s'accorde à dire qu'elle a été frauduleuse. Pays bouclé, mais nous, on y va.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3 mois tout juste qu'Alexandre Loukachenko prétend avoir été réélu à la tête de la Biélorussie et 3 mois que s'enchaînent sans discontinuer manifestations et répressions. Lundi dernier, l'ONU dénonçait des détentions arbitraires et la torture. Mercredi, l'Union européenne lançait une procédure de sanctions contre Loukachenko, son fils et 13 autres responsables de la répression. Et jeudi, c'était l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui publiait un premier rapport indépendant et accablant, pointant les violations massives des droits de l'homme et demandant l'annulation des élections. Après 26 ans de pouvoir, Loukachenko ne montre aucun signe de capitulation. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, des citoyens manifestent pacifiquement dans les rues de Minsk, la capitale. Alors depuis 3 mois, le pays est complètement bouclé. Pourtant, aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre ces résistants de Biélorussie. Thomas Distria est l'un des très rares journalistes à raconter le pays de l'intérieur. Écoutez bien, il nous emmène au cœur de la révolution sociale et culturelle qui est en cours. C'est la révolution des quartiers. Reportage.
Minsk, ville grise à l'architecture typiquement soviétique. De longues rues, de larges avenues. À 10 minutes de l'hypercentre, nous voilà presque au quartier du changement, le Prachat Peremien. Au détour d'une rue apparaissent les lampions qui surplombent une aire de jeu entourée de hauts immeubles. Sur les tables, des réservoirs de thé, des assiettes de gâteaux et les habitants qui commencent à affluer. Une pancarte les accueille. Bienvenue au quartier du changement. Et derrière les micros ce soir, c'est Petlia Pristelatsia qui vient soutenir la résistance, un groupe très connu dans les pays de l'espace post-soviétique. La petite place est remplie de gens qui dodelinent de la tête, prennent des vidéos. La nouvelle du concert gratuit est circulée dans Minsk. Beaucoup sont venus d'autres quartiers. C'est le cas de Lisa, friande de ces moments d'échange.
On a librement changé de mentalité. Et beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas dans le voisinage forment maintenant une communauté et partagent des idées fortes. Ils ne restent pas cloîtrés chez eux à regarder la télé où il n'y a que de la propagande pour Loukachenko.
Sur la place, on discute, les enfants jouent, un chien circule de caresse en caresse. Des pancartes indiquent qu'il est interdit de marcher sur la pelouse et que les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues. Aux fenêtres qui s'éclairent dans la nuit, on aperçoit les drapeaux blancs et rouges. Les gens ne veulent plus rester chez eux. Cette lutte contre Loukachenko les rassemble. La révolution des quartiers, c'est tous les jours, m'explique Véronica.
Parfois, quand on rentre des grandes marches, il arrive que l'on se sente désemparé. Et ici, tous les manifestants se retrouvent, se rassemblent pour échanger. Et puis ceux qui travaillent pour les structures gouvernementales peuvent exprimer leur opinion librement.
Une émulation qui a commencé début août, après la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko. En réaction à la terrible répression des manifestants, ici, sur la place du quartier du Changement, c'est un collage sur un bloc de béton qui a lancé la résistance. Le portrait de deux DJ de Minsk qui, juste avant l'élection, en concert, avaient osé passer Pieremien, une chanson mythique du rocker russe Viktor Tsoï, devenu un hymne protestataire dans l'espace post-soviétique. Les deux DJ sont arrêtés, ils passeront 10 jours en prison. En rentrant dans leur quartier ce jour-là, un groupe d'amis crée puis colle cet effresque portrait. Vassili, un trentenaire, se rappelle la surprise des habitants.
Un des moments très forts, ça a été quand la fresque a été détruite et dégradée. Des gens qui ne se connaissaient pas sont descendus pour la rénover, pour échanger. Ça a été la première rencontre. Certains ramenaient des produits nettoyants, d'autres des dissolvants. Mais où étaient ces gens avant ?
Depuis, les habitants jouent au chat et à la souris avec la police, qui tente régulièrement d'effacer la fresque. Yvan, par exemple, qui a souhaité qu'on change son nom pour rester anonyme, se souvient s'être échappé de peu par le souterrain du parking qui est juste là, sous l'air de jeu.
Quand la police est venue, moi et Stéphane, le gars qui est en prison, on refaisait la fresque sur le mur. La police est arrivée, on a juste sauté là-dedans et on est ressorti par cette porte. Et puis on voyait les policiers essayer d'ouvrir l'autre porte.
Et Stéphane, il est sorti de prison ?
Non, non, il y est toujours. Depuis quoi ? 2 mois ? Plus d'un mois.
Au fil des jours, les nouveaux amis sont restés sur la place, à boire du thé, interpeller les voisins. Puis ils sont descendus plus nombreux, sont restés de plus en plus longtemps. Et depuis, les animations s'enchaînent. Yvan fait partie des habitants très actifs.
La semaine prochaine, on a le groupe Radiohead. Non. Enfin, moi, je m'occupe pas des concerts. Je ne sais pas qui le fait. Il y a tant de personnes actives maintenant.
Certains
organisent les concerts, d'autres des événements artistiques. Et puis il y a un groupe qui se bagarre avec le gouvernement à propos de ces immeubles. On nous fait payer des amendes pour les logements, alors ils essayent de les faire annuler.
Le quartier du Changement donne des concerts quasiment tous les soirs. Les annonces sont passées via une chaîne Telegram, Radio Quartier Pieremien. En fait, chaque quartier révolutionnaire de Minsk a son chat Telegram, une communication cryptée qui limite les risques d'arrestation, explique Yvan.
Quelquefois, ils attrapent une personne, mais tu vois, parmi les militants du premier jour, la police essaye d'attraper l'administrateur de leur groupe Telegram. Mais jusqu'ici, ils n'ont réussi à attraper personne de notre groupe, car on est tous
cryptés.
Pas de quoi faire rentrer les habitants chez eux. Ils ont pris goût aux discussions politiques autour des balançoires. En les écoutant, on sent bien que tout retour en arrière est impossible.
Je dirais que dans une manif, tu te sens plus en sécurité qu'à la maison. Là, dans la foule, tu côtoies des gens ouverts d'esprit, des gens normaux. Mais quand tu restes à la maison, tout seul, tu te dis « Oh, peut-être que les aumônes, les forces spéciales vont venir un jour frapper à ma porte. » Alors qu'ici, c'est sûr.
C'est positif parce qu'on a vraiment de mauvais moments. Alors, une bonne journée comme ça dans la semaine, on se dit que le reste, ça va aller.
Ce n'est pas le quartier qui a changé, explique Vassili. Ce sont les habitants. Avant cet été, on ne se connaissait pas. Un changement profond qui lui donne confiance dans l'avenir.
Le souci, c'est qu'en 26 ans, ils ont créé beaucoup de problèmes. On en a à tous les niveaux de la société, juridique, économique. Alors il va falloir s'atteler à tout ça et travailler.
En se promenant dans Minsk en début de soirée, il n'est pas rare de tomber sur un rassemblement blanc et rouge au milieu des tours. Avec, autour d'un chocolat chaud et d'une partie de Uno, des voisins qui refont le monde. Un monde sans Loukachenko. À Minsk, Thomas Distria, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 après ce reportage très fort et on est en ligne avec Thomas Distria.
donc l'un des très rares journalistes, je le rappelle, qui est présent à Minsk. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a beaucoup de quartiers qui résistent comme ça, à leur manière ?
Ah oui, c'est quelque chose qu'on voit vraiment partout à Minsk, parfois sous forme de concerts ou de réunions de voisins, comme on vient de l'entendre au quartier du Changement. Mais parfois aussi, ce sont de simples rassemblements, une dizaine de personnes à côté d'une route qui tiennent des drapeaux. Cette révolution des quartiers, c'est vraiment un éveil social et en cela, c'est peut-être la structure la plus solide de la révolution, ouais. Qui chaque soir discute du mouvement. Il existe une carte où l'on peut visualiser tous les quartiers qui se mobilisent à Minsk, ouais. Et ailleurs dans le pays. Et ils se comptent par centaines.
À l'inverse, est-ce que vous diriez, Thomas, que les grands rassemblements nationaux, ces grandes marches du dimanche, marquent un peu le pas ?
Ah oui, c'est le cas. L'ultimatum et l'appel à la grève nationale lancé par Svetlana Tikhanovskaya, la figure principale de l'opposition, en exil en Lituanie, n'ont pas vraiment fonctionné. Il y a eu une forte mobilisation les premiers jours, dans les universités, ouais. Les usines, mais le régime a lancé une vague de licenciements et d'expulsions sans précédent. Forcément, ça a eu un impact. Mmh. Et puis surtout, ça fait des semaines que les grandes manifestations du dimanche perdent en nombre. Il y a plusieurs explications à cela. Il y a le froid, tout simplement, mmh. Le coronavirus, ouais. Et puis surtout la violence des aumônes, les forces spéciales anti-émeutes. Mmh. Mais encore une fois, dans les quartiers, les gens continuent à se réunir. Mmh. La flamme n'est pas prête de s'éteindre. La société biélorusse a vraiment passé ouais. Un cap.
Quelques mots, Thomas, d'une autre forme de résistance dans le pays, c'est la résistance technologique.
Oui, parce qu'il faut savoir que le secteur des technologies de l'information est très important. Mmh. Il représentait 6% du PIB avant les élections et s'est très ouais. Vite mobilisé pour surveiller la transparence des élections. Mmh. Résultat, il y a eu beaucoup d'arrestations au sein des entreprises. Ouais. Des militants du numérique se sont exilés dans des pays voisins. Cela dit, certains sont toujours à l'œuvre. Je pense notamment aux cyberpartisans, comme on les appelle ici. C'est un groupe dont on ne sait pas grand-chose, mais qui attaque le régime sur le front numérique. Mmh. Par exemple, ils ont hacké la télévision nationale en direct pour passer des images de violences policières. Mmh. Les sites gouvernementaux sont également hackés. Mmh. Et puis surtout, ils ont publié des noms et adresses de centaines de membres des forces spéciales anti-émeutes, des hommes en cagoulé pendant les manifestations. Donc ces cyberpartisans, ils sont anonymes, mais très appréciés par la population.
Ouais, merci beaucoup Thomas, merci de nous avoir permis de ressentir le cœur de cette révolution citoyenne qui dure depuis 3 mois en Biélorussie et dont le premier enjeu, je le rappelle, est le départ d'Alexandre Loukachenko du pouvoir. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.
À suivre, un bon roman, ça vous dirait ? C'est Nicolas Carreau qui nous rejoint dans un tout petit instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La page culture des carnets nous ramène vers l'Amérique. Aujourd'hui, un livre dans le monde que nous propose Nicolas Carreau. Hello Nicolas.
Hi.
C'est au Texas que nous emmène ce roman dont vous avez choisi de nous parler. Un roman qui vous a bousculé.
Ah bah d'entrée, une bonne gifle. Le roman s'ouvre sur une scène très dure et techniquement bluffante. Bon, ça, c'est mon défaut. Je lis en observant les structures narratives. Alors donc, ça commence dans des champs pétrolifères. C'est assez beau, je cite. « À l'est, le ciel vire au violet, puis au bleu nuit, puis au gris ardoise. Dans quelques minutes, il sera éclaboussé d'orange et de rouge. » C'est très beau, hein, mais ça ne va pas durer. Un homme, un foreur, plutôt jeune, est endormi dans son pick-up avec les bottes sur le tableau de bord, le chapeau sur les yeux. On se croirait dans un bon vieux western avec le cow-boy qui se repose, vous voyez. Mais ce n'est pas un héros, pas du tout. À côté du pick-up, voici Gloria Ramirez, 14 ans. Elle est à terre. Elle ne sent plus son corps. Elle est disloquée. Ses vêtements sont déchirés. Elle devrait s'enfuir. Elle aurait dû s'enfuir depuis qu'il s'est endormi à cause de l'alcool qu'il a ingurgité. Mais elle n'ose pas. Elle est tétanisée.
Elle a été agressée, violée.
Exactement. Elle a accepté hier soir de monter dans le pick-up de Dale Strickland. C'est lui, le foreur. Mmh. Il l'a emmenée au milieu de nulle part. Il l'a violée. Elle est en miettes. Elle le regarde, mais elle a peur qu'il se réveille. Il n'y a rien en plus, à part peut-être une petite ferme là-bas au loin, au bout de la route. Et puis finalement, l'instinct de survie, elle déguerpit.
Et alors, elle trouve de l'aide dans la ferme ?
Effectivement, dans la ferme, il y a Mary Rose. Ah. Heureusement, c'est elle qui raconte le deuxième chapitre. On avance. Glory, c'est-à-dire Gloria, est hors de danger maintenant. Il faut que la justice passe, n'est-ce pas ? Mais c'est plus compliqué que ça. Que vaut la parole d'une petite Mexicaine contre un type qui œuvre pour la grandeur et l'économie de son pays ? Pas grand-chose, particulièrement à Odessa dans les années 70. Sandra Rigaud est l'éditrice du livre.
Odessa, c'est une toute petite ville qui vit vraiment par et pour le pétrole et qui est en fait complètement tenue par les hommes qui sont en fait ceux qui font vivre la ville économiquement et socialement. Le fait que ce soit Gloria Ramirez la victime, donc une femme hispanique et pas une femme blanche, est extrêmement important. Et d'ailleurs, un des personnages du livre le souligne. Si la victime avait été blanche, le traitement du procès aurait été extrêmement différent. Donc une jeune femme et une Latina, c'est forcément quelqu'un qui est jugé beaucoup moins favorablement qu'une blanche.
Mais personne ne la soutient, Nicolas ?
Eh bien si. les femmes, petit à petit, elles vont se lever pour soutenir Glory. C'est d'abord un roman sur le sort et la mobilisation surtout des femmes. D'ailleurs, ce sont des femmes qui racontent exclusivement. Et c'est donc une femme qui a écrit le roman, Elizabeth Wetmore, au parcours très étonnant.
Elizabeth Wetmore, c'est une primo-romancière d'une cinquantaine d'années qui habite aujourd'hui à Chicago, mais qui est née et a grandi à Odessa, au Texas, la petite ville qu'elle décrit dans Glory. Et en fait, elle est partie de cette ville quand elle avait 19 ans. Et depuis qu'elle est partie, elle voulait vraiment en fait, raconter sa version de la ville. Et c'est un projet qui lui tient extrêmement à cœur et qu'elle a porté pendant plus de 15 ans pour écrire ce roman. Pour subsister, elle a dû faire énormément de petits boulots. Elle a été prof d'anglais, elle a été chauffeur de taxi, elle a été barmaid, elle a même peint des silos qui contiennent du pétrole. Donc elle a fait toutes sortes de choses pour pouvoir mener à bien ce projet littéraire.
15 ans, elle l'a porté, ce projet.
Roman.
Elle s'est accrochée.
Eh bien, lui en a pris. Le roman a été très, très applaudi aux États-Unis.
Mmh. Glory, donc, d'Elizabeth Wetmore, aux escales pour mieux comprendre l'Amérique. La traduction est de...
Emmanuel Aronson.
Merci beaucoup, Nicolas. À tout à l'heure, vous revenez à 14h pour La Voix et Livre.
À tout à l'heure.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Malgré cette actualité plutôt lourde ces derniers temps, figurez-vous que la vie continue et que partout dans le monde, des femmes mettent au monde des bébés, que des parents élèvent leurs enfants, écoutent leur premier babillement avec émotion, fêtent la première dent, les premiers pas, la vie, quoi. Mais chacune de ces mamans le fait à sa façon et surtout selon les traditions du pays où elle vit. Bonjour Anya Pamula.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1 pour partager le fruit de votre enquête.
Ben merci
avec Dorothée Saada. Vous avez écrit un très beau livre, très joli livre qui s'appelle « Maman du monde ». Vous avez rencontré les mères de 90 pays et vous avez choisi 40 d'entre elles dont vous nous proposez le portrait, des entretiens, des petits trucs comme ça du quotidien. Parce que si donner naissance à un bébé, c'est la chose la plus partagée au monde. Il existe plein de façons finalement d'accueillir un enfant et de l'élever.
Complètement. Ça veut dire, moi je suis polonaise, ça fait 8 ans que je suis en France. Et quand mon fils il est né, je me suis rendu compte des différences. Ça veut dire la Pologne, c'est pas si loin. Et alors, tout est différent.
Par exemple, qu'est-ce qui vous avait frappé tout de suite entre la Pologne et la France?
Et alors, je me rappelle, Joseph avait 3 mois. Et toutes les mamans autour de moi, elles me demandaient ce qu'il fait ses nuits. Alors déjà, faire ses nuits, je ne comprenais pas vraiment. C'est comme faire ses devoirs. Bizarre. Et alors que ma grand-mère me disait, écoute, s'il y a 2 ans, il dort, il va dormir bien, tu vas être la maman chanceuse. Parce qu'en Pologne, les enfants ne dorment pas, c'est comme ça. On les prend dans les bras, on les...
Le rapport au sommeil peut être très, très différent d'un pays à l'autre, par exemple.
Exactement. Alimentation, je me rappelle quand ma grand-mère m'a dit que si Joseph, il va avoir un peu de rhume, il faut le frotter avec de l'alcool fort. Alors d'abord, de la vodka, bien évidemment. Et alors, je me rappelle que oui, je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé, est-ce que vous avez l'alcool pour le bébé? Parce que j'en ai vraiment besoin. J'étais une maman fatiguée, manque de sommeil. Et oui, cette double culture, ouais. Ça nous amène plein de surprises.
Et c'est finalement assez riche. Vous abordez toutes sortes de sujets, depuis la gestation, l'accouchement, les rites avec un nouveau-né, l'alimentation, le sommeil, les soins, vous le disiez. La présence de la famille aussi, on va parler un petit peu de tout ça. C'est différent partout, finalement.
Différent partout, mais comme vous dites, il y a ce que j'aime dans ce sujet, qui a le côté très universel. Comme vous dites, partout au monde, on donne la naissance toujours, même à ce second même. Alors du coup, oui, la vie continue. Ouais.
Et c'est différent, mais pas forcément mieux ou pas forcément pire. Et finalement, c'est assez déculpabilisant de lire ça.
Bah, si je peux dire que j'ai tiré une leçon de tout ça, ou j'en tire encore, c'est vraiment ça, c'est déculpabiliser. Et de se dire qu'il n'y a vraiment pas une façon de faire. J'aurais jamais jugé une maman qui allaite, qui allaite pas. Qui dort avec le bébé, qui dort pas. C'est pas possible en fait, parce qu'on peut faire tellement différemment qu'il faut respecter ça.
Alors il y a des situations très dures pour certaines mamans ou futures mamans dans le monde, des pays où il faut avoir vraiment confiance en l'avenir pour choisir de donner naissance. On va parler d'un pays qui est en guerre depuis plusieurs générations, des décennies, c'est l'Afghanistan. Qui a encore connu une attaque terroriste terrible ces derniers jours à l'université. Et il y a quelques mois, on s'en souvient, c'était une maternité qui avait été ciblée. La violence n'a aucune limite. On est en ligne avec notre correspondante en Afghanistan, Margot Ben. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors ça fait 2 ans et demi que vous vivez la plupart du temps à Kaboul et vous avez fait pas mal de reportages auprès de mamans ou de futures mamans. Être mère en Afghanistan, c'est d'abord donner la vie dans un pays en guerre.
Exactement, et comme vous vous en doutez, la guerre rend les accouchements beaucoup plus dangereux. Et il arrive que la route vers la maternité traverse l'une des nombreuses lignes de front entre les combattants talibans et les forces gouvernementales, et les futures mamans risquent de se retrouver prises entre les tirs. Dans la province du Wardak, par exemple, juste à côté de Kaboul, le directeur du principal hôpital m'a reçu dans la cour de la maternité devant une ambulance complètement détruite, criblée d'impacts. Car deux semaines plus tôt, deux roquettes étaient venues s'abattre, juste là, dans l'enceinte de l'hôpital. Autre danger, la nuit où la criminalité augmente, impensable de prendre la route vers la maternité après le coucher du soleil. Donc les mères font tout pour ne pas accoucher la nuit, ou bien elles accouchent seules chez elles, ce qui les met évidemment en danger. Et l'Afghanistan est l'un des pays au monde avec le plus fort taux de mortalité des mères et des bébés.
Si on met de côté cette violence, Margot, une fois dans les maternités, comment ça se passe pour les Afghanes ?
Alors, dans plusieurs maternités que j'ai visitées à travers le pays, il y a peu de médicaments. L'ibuprofène, c'est vraiment réservé aux cas gravissimes. La péridurale, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, les femmes font confiance au tawiz, une sorte d'amulette, une petite pierre qu'on enroule dans un bout de tissu et qu'on noue autour de la cheville.
C'est un peu la force du mental, ce que vous nous racontez là.
Sans doute, oui, mais les futures mères sont d'autant plus soucieuses d'apaiser les douleurs des contractions, car elles sont censées ne même pas crier ni se plaindre, même pendant l'accouchement.
Et pourquoi ?
C'est mal vu. Et les belles-mères viennent jusque dans la salle de travail pour s'en assurer. J'ai entendu l'une d'elles siffler à sa belle-fille « Tais-toi, tu n'es pas courageuse !» Et une autre m'a expliqué avoir eu honte de sa belle-fille qui gémissait dans le taxi l'amenant à la maternité par peur du « qu'en dira-t-on ?» La belle-mère, c'est un peu la terreur du foyer dans de nombreuses familles. Elles font tout pour préserver l'honneur de leur fils et les mères ne peuvent même pas s'en débarrasser rien que le temps d'accoucher.
La belle-mère, pire que sa caricature, là, en l'occurrence. Sinon, Margot, il y a beaucoup de croyances autour de la maternité en Afghanistan ?
Oui, plein, et pas seulement dans les campagnes où les gens sont souvent peu éduqués. J'ai rencontré, par exemple, une jeune femme de 22 ans, moderne, classe moyenne de Kaboul, et elle consultait des mollahs, des dignitaires religieux, mais qui ressemblaient davantage à des rebouteux, censés augmenter sa fertilité. L'un d'eux l'a envoyé trouver chez un apothicaire une peau de biche fraîche sur laquelle il inscrirait une incantation. Et elle lui faisait plus confiance qu'à son gynécologue.
Ah oui, quand même.
Oui, autre exemple connu des femmes. Au bord d'un lac près de la capitale, une jeune sorcière vêtue d'un grand voile turquoise reçoit des Afghanes venus de tout le pays. Elle est surnommée la sorcière bleue et elle lit dans les lignes de la main. Elle donne aussi des décoctions à boire, censées provoquer une grossesse dans les 2 mois qui suivent. Donc même si la médecine moderne elle a fait son chemin dans les grandes villes, la magie dispute souvent la place à la science. Il faut dire que les femmes ont énormément de pression pour avoir autant d'enfants que possible et il est bien vu que le premier bébé arrive dans l'année qui suit le mariage.
Ouais, tant de pression sur ces femmes afghanes, par ailleurs confrontées à l'obscurantisme des talibans qui reprennent de plus en plus de pouvoir dans le pays. Merci beaucoup Margot de nous parler d'elles, de ces femmes. Et je signale que vous avez co-réalisé un reportage qui sera diffusé sur la chaîne Arte le 28 novembre qui s'appelle « Afghanistan, tu enfanteras dans le chaos ». Merci beaucoup Margot et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Ania Pamula, pas de maman en situation de guerre dans votre livre, mais des mamans qui subissent la pression de la famille et notamment de la belle-mère, si.
Oui, ça c'est une des choses les plus universelles, je dirais. Le problème avec la belle-mère. C'est quelque chose que je retrouve avec les mamans camerounaises, les mamans brésiliennes, thaïlandaises, ce que vous voulez, ça existe partout. En Pologne aussi.
La place de la maman est très importante aussi pour beaucoup de pays, dans beaucoup de traditions.
Oui, on dit même par exemple dans
enfin,
les...
De la maman, de la mère. Enfin...
Ah, de la maman, de oui.
Donc la grand-mère en quelque sorte.
Complètement, ça veut dire, il y a beaucoup de pays où par exemple la maman avec le nouveau-né déménage chez la maman, alors soit la sienne, soit la belle-mère après l'accouchement. Alors pendant 40 jours, ces fameux 40 jours, qui existaient d'ailleurs avant en France aussi. Elle déménage, oui, chez la famille pour qu'on puisse entièrement s'occuper d'elle et qu'elle puisse que allaiter.
Pourquoi 40 jours ? On sait ça ?
On ne peut pas savoir. Mmh. Alors oui, on peut dire 40 jours, ça existait déjà dans la Bible. On a posé cette question à Marie-Rose Moreau, qui est une femme extraordinaire et pédopsychiatre et qui parle aussi de notre livre. Elle a pas, on ne peut pas savoir pourquoi. Alors oui, de point de vue médical, on dit que souvent, c'est pour empêcher d'avoir tout de suite un autre bébé. Après, on retrouve quand même 40 jours vraiment partout dans le monde. C'est quarantena dans les pays latinos et
C'était en France, ça existait aussi. C'était aussi 40 jours. En Pologne, on dit que pendant le premier mois, il ne faut pas sortir avec le bébé. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je parlais avec une maman gabonaise qui me disait que chez eux, c'est 3 mois. Mais quand même, il y a vraiment cette période de protéger la maman et protéger le bébé dans le postpartum.
Le 40 jours, on le retrouve aussi dans finalement des cultures très très différentes pendant lesquelles la maman ne doit pas se laver.
Oui, effectivement. Il y a par exemple en Chine, la maman ne doit pas se laver. Alors, on dit que
en Algérie
c'est...
aussi, enfin, en Algérie des cultures aussi, assez différentes
oui,
en fait.
Oui, complètement. C'est comme moi, vous savez. Mm-hmm. En Pologne, par exemple, pour l'allaitement, pour stimuler l'allaitement, on boit de la bière sans alcool, attention. Et la même chose, j'aurais trouvé chez la maman camerounaise. Alors oui, c'est là où c'est émouvant. On retrouve des choses tellement différentes.
Ania Pamulin se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette conversation autour des bébés et des mamans du monde.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Comment fait-on dans ton pays? C'est la question que Ania Pamula a posée avec Dorothée Sada à une quarantaine de mamans, enfin beaucoup plus, mais il y en a 40 dans ce livre « Maman du monde » pour savoir un petit peu quelles sont les différentes manières de donner naissance, d'éduquer son bébé, d'en prendre soin. Ania Pamula, c'est très frappant en feuilletant ces 40 portraits de mères et en les lisant, le nombre de fêtes et de traditions qu'il y a autour de la naissance.
Ah oui, c'est très très riche, effectivement. On peut aller, par exemple, en Arménie à une fête pour quand il y a le premier dent qui apparaît. Alors en fait, on invite toute la famille, c'est plus important que l'anniversaire.
Parce que quand vous dites on invite toute la famille, c'est que ce sont des très grosses fêtes, quoi.
Ah oui. Ah oui, ça c'est vraiment des très grosses fêtes. Par exemple, en Bahreïn, la fête de naissance, ils peuvent être 100, 150 facilement.
C'est comme un mariage en fait.
Comme un mariage.
Et on fait beaucoup de cadeaux. Vous pouvez nous rentrer un petit peu dans les détails de cette tradition. Bahreïn, c'est très impressionnant, j'avoue.
Bahreïn, c'est très impressionnant. Alors, la maman avec qui je parlais m'a raconté qu'elle, quand elle a accouché, alors, elle a brodé les coussins avec les Ferrari et des choses, du doré pour le rendre beau pour son fils. Et alors, en fait, elle a ouvert le compte en banque pour son nouveau-né.
Ouais.
Et du coup, les invités, soit ils venaient avec des cadeaux, plus ils mettaient de l'argent sur le compte en banque. Ouais.
Parce qu'il y a quand même 200 invités qui débarquent à la maternité et
à
qui
la
défilent
oui,
à la
défilent.
Maternité.
Complètement. Il y a des pièces spéciales dans les hôpitaux pour fêter et pour la maman attend la famille.
Et ça peut durer plusieurs jours, hein, c'est ça?
Ça peut durer plusieurs jours. Après, on peut imaginer que c'est aussi un soutien. Ça veut dire que c'est peut-être mieux que d'être toute seule. Je ne sais pas. C'est difficile à juger, je pense.
Ne jugeons pas. Ouais. Il y a un autre pays où il se passe beaucoup de choses à la maternité. On va y faire un petit tour ensemble. Maintenant, je vous emmène au Brésil. C'est un des pays dont vous parlez dans votre livre. Il y a beaucoup de traditions autour de la naissance au Brésil. Et notamment là-bas, il y a quelque chose qui est très frappant. Les naissances par césarienne sont devenues quasiment la norme. C'est 80% des naissances de bébés dans les hôpitaux privés, un petit peu moins dans les hôpitaux publics. Je vous propose d'écouter ce reportage à Sao Paulo de Marino Dacher, notre correspondante. Elle est allée dans l'une des plus grandes maternités de la ville.
À première vue, c'est une maternité comme une autre. On y croise des femmes très enceintes qui attendent une consultation, des familles chargées de cadeaux, des pères qui pleurent d'émotion au téléphone. Plus de 1000 Brésiliens naissent ici tous les mois. Et pour le docteur Mario Makoto, chef du service d'obstétrique du Santa Joan, une des plus grandes maternités de São Paulo, c'est la routine.
Nous avons des patientes qui ont un accouchement programmé. La porte d'entrée est la même, mais l'accueil est différent, car tout est prévu.
Pour entrer dans le secteur des blocs opératoires où ont lieu les naissances par césarienne, il faut enfiler des tenues stériles, changer de masque et porter une charlotte sur la tête. Selena, infirmière en chef, consulte le grand tableau blanc dans le couloir.
On a l'agenda des césariennes programmées et les chambres des accouchements normaux. Ce sont deux couloirs différents. Cette césarienne est prévue à 15h30, donc dans pas longtemps. La prochaine étape, c'est la naissance et on écrit RN OK, nouveau-né OK.
Plus de 80% des Brésiliens naissent par césarienne dans les hôpitaux privés et plus de la moitié dans le public. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande une moyenne nationale de 15% de césariennes pour sauver la vie des femmes et de leurs enfants en cas de danger. Alors pourquoi ce record au Brésil? La scène qui se passe sous mes yeux confirme que c'est un choix plus culturel que médical. À peine sorti du ventre de sa mère, un nouveau-né pousse son premier cri. et il est présenté par le médecin à toute la famille qui attendait derrière une vitre avec appareil photo et sourire jusqu'aux oreilles. L'infirmière me montre comment marche cette vitre à opacité contrôlée.
Chaque bloc opératoire donne sur une galerie. La famille attend ici et quand le bébé naît, le médecin dit « vous pouvez ouvrir » et clac, la vitre devient transparente.
Alors choisir la date de sa césarienne permet de planifier son congé maternité ou paternité, d'organiser les visites de la famille, d'imprimer les faire-part avec la date de naissance. Mais il y a aussi la peur de la douleur, des contractions ou alors l'histoire d'une cousine qui aurait sauvé son bébé grâce à une césarienne. Bref, l'accouchement normal fait peur au Brésil. Et pour l'hôpital, la logistique est plus facile à organiser. Les médecins savent à quelle heure ils terminent, ou à peu près, alors que les accouchements par voie basse peuvent durer des heures. Et puis les mutuelles remboursent mieux les accouchements par césarienne, donc c'est plus rentable pour tout le monde. Alors dans ce contexte, trouver un gynécologue qui suive une grossesse quand on ne veut pas d'une césarienne automatique, c'est compliqué. Anne-Laure est journaliste, elle est française et elle a dû mener une vraie enquête pour faire naître ses deux filles avec un médecin qui n'allait pas lui suggérer ou lui imposer une césarienne.
Alice, tu dis bonjour à...
Coucou.
Marie. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Il fallait trouver le gynécologue qui accepte de faire des accouchements par voie basse et qui soit sincère, parce que beaucoup d'histoires de Françaises au Brésil qui ont pris des gynécologues, finalement, on leur a promis un accouchement par voie basse. Et finalement, ça s'est terminé en césarienne. Donc ça, il y avait beaucoup de témoignages de Françaises à qui c'est arrivé. Enfin bon, ça a été un casse-tête. Mon mari me voyait piquer des crises de larmes au téléphone. J'avais un tableau Excel avec, je sais pas, j'avais 20 noms d'obstétriciens. Enfin, c'était vraiment un parcours du combattant.
La chargée de communication qui nous accompagne pendant toute la visite insiste pour montrer la salle d'accouchement normale avec balle de pilates et baignoire pour soulager la douleur, car le Santa Joana essaye de valoriser l'accouchement normal, mais l'écrasante majorité des femmes accouchent encore ici, comme dans la plupart des cliniques privées, par césarienne, qu'elles soient d'urgence ou programmée. Quoi qu'il en soit, le docteur Mokoto préfère ne pas s'étendre sur les raisons qui motivent ces femmes à choisir une césarienne, car ici, la naissance est avant tout une fête, un événement social. On peut faire décorer sa chambre d'hôpital, on orne la porte avec une couronne brodée au nom de l'enfant, on peut aussi embaucher un photographe ou même un caméraman pour suivre l'accouchement. Et comme dit ce spécialiste des grossesses à risque, l'obstétrique, c'est toujours un équilibre entre le risque et la magie. À São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Voilà le reportage de Marie à São Paulo. Anya Pamula, la césarienne, c'est un sujet pour toutes ces femmes que vous avez rencontrées?
Oui, c'est vrai que le Brésil, ce n'est pas le seul pays où on pratique beaucoup de césariennes, par exemple en Thaïlande. Alors là-bas, on le fait souvent, on dit parce que les hôpitaux y sont saturés. Et la maman, elle m'a dit que c'est vraiment le médecin qui a besoin de partir en vacances et qu'il a besoin, oui, de savoir que ça va se passer à 16h samedi. Voilà. Par contre, elle a dit aussi qu'elle est allée d'abord, avant de consulter son gynécologue, elle est allée consulter un astrologue. Alors c'est l'astrologue qui lui a dit « ça serait bien que ta fille, elle naisse le 16 décembre ».
En Afghanistan, tout à l'heure, Margot Ben nous racontait cette histoire de la petite amulette qu'on s'accroche à la cheville pour essayer de contrer la douleur. Est-ce que la magie intervient beaucoup dans les traditions et est-ce que ça perdure encore aujourd'hui dans certains pays ?
Oui, bah je pense même en France, j'ai vu beaucoup de femmes qui se sont baladées avec des petits trucs là sur le ventre qui font du bruit, vous voyez. Alors je pense que la foi, on en a besoin aussi, hein. Peu importe ce que c'est, hein, c'est de l'espoir. Partout, dans tous les pays, ça existe. Ouais.
Au Brésil, il y a aussi une fête pour le 7e mois de grossesse. Donc on commence avant même. D'ailleurs, il y a pas mal de pays où on commence les fêtes avant même. Et après, je dis tout dans le désordre, mais il y a des fêtes pour tout, hein. Il y a la fête pour le 100e jour de vie, premier jour de marche, les premières dents, vous en parliez tout à l'heure.
Fête aussi 6 mois, de half birthday, demi-versaire.
Les 100 jours aussi.
Oui, les 100 jours. Oui.
En France, finalement, c'est très banal. On n'a pas de grandes fêtes comme ça.
Oui, on a l'anniversaire. Hein.
Oui, c'est, tout simplement.
Oui, c'est vrai.
La place du papa, finalement, il y a beaucoup de pays où le papa disparaît complètement le premier mois.
C'est vrai. C'est vrai que c'était une réflexion assez triste qu'on a eue avec Dorothée. Après, le seul pays où vraiment on a senti l'égalité, déjà la maternité, ça se voit vachement parce que les lits sont doubles à la maternité déjà, c'est que dans les pays scandinaves.
Ouais.
Et c'est déjà les grands-pères et les pères qui ont vécu cette égalité, ça veut dire d'avoir leur place. La maman finlandaise, par exemple, elle m'a dit, nous, les femmes finlandaises, on laisse nos conjoints prendre le relais. C'est souvent une question de contrôle. Par exemple, les mamans latinas, elles disent, nous, c'est nous qui gère. Hein.
Ouais. Maman du monde, que vous signez Ania Pamula avec Dorothée Saada, c'est une sorte de petit livre de recettes, un livre positif, un livre témoignage de 40 mamans de tous les continents d'ailleurs. Et c'est édité par First Edition. Merci de nous avoir accompagnés
merci
aujourd'hui.
Beaucoup,
merci pour cette petite touche positive aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et après les maternités, mais c'est à l'école qu'on vous emmène dans quelques instants avec Joseph Chovanec qui va nous rejoindre. C'est le petit voyage en Autistan.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est le moment de faire un petit détour par l'Autistan grâce à Joseph Chovanec qui est en ligne avec nous depuis la Belgique. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Votre triple casquette de philosophe, autiste Asperger et amoureux des voyages a forgé ce regard singulier que vous portez sur le monde et que vous partagez avec nous. Et c'est l'école qui vous inspire aujourd'hui.
Oui, Sophie, malheureusement, c'est un assassinat barbare qui ramène ces jours-ci la question de l'école au premier plan de l'actualité. Pourtant, l'école, chacun connaît. Hein, il suffit de prononcer ce mot et de suite, les souvenirs affluent. Ouais. Et ces souvenirs sont loin d'être unifiés. Au contraire, ils sont extraordinairement divers selon les pays et selon les périodes de l'histoire. Hein. Dans certains pays du monde, les reconstitutions d'anciennes classes ou écoles sont très appréciées. Hein. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé à Heist. Hein. Alors, c'est une localité côtière à la frontière entre Belgique et Pays-Bas de langue flamande. Ouais. Hein. De nos jours, Heist, c'est une station balnéaire chic. Mais il y a un siècle, c'était un village de pêcheurs où la vie pouvait être rude. Et là, j'ai visité la salle de classe historique du village. Alors, certes, comme on l'imagine, hein, il y avait tout le mobilier des très vieille classe en bois hein, et à lui seul il donne un cachet mémorable à l'ensemble et puis tous ces accessoires qu'aujourd'hui on n'a plus hein, dans les salles de classe, par exemple le poêle de chauffage en métal noir au milieu de la classe. Mais le plus saisissant était au fond de la classe et le long des murs, et en effet la salle de classe était un lieu de stockage pour un fabuleux bric-à-brac, des centaines de bocaux en verre avec toutes sortes d'animaux, poissons, oiseaux, reptiles, tous dans du formol dûment étiqueté par du papier jauni.
C'était sans doute à l'époque pour les cours de biologie.
Ou peut-être le résultat des tendances autistiques du prof hein, qui consacrait peut-être ses journées de cours à ce centre d'intérêt. Et il entreposait ses collections et bien directement dans son lieu de vie, hein, la salle de classe. De nos jours, je crois que ça ne passerait pas. Hein. Petit détail, derrière l'un des meubles remplis de bocaux, il y avait un tableau sur lequel étaient fixés des bouts de corde avec à chaque fois le nom du nœud. Hein. Que l'échantillon de corde montrait. Visiblement, il y a un siècle, les élèves à Heist apprenaient aussi ce qui allait leur servir plus tard tant que marins. Hein. En somme, le programme scolaire était déterminé non pas tellement par un ministère quelconque, mais par la personnalité du prof et par les besoins du lieu.
Ou peut-être un petit mélange de tout ça avec une flexibilité.
Oui, et le mot flexibilité me fait penser évidemment à cette école rurale de Nouvelle-Calédonie où j'avais passé du temps il y a un an et quelques. Bien sûr, cette école était française, mais avec la particularité de l'autonomie législative de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier pour le droit coutumier kanak qui s'imposait dans l'école où j'étais. Hein. Et la maîtresse d'école avait pu considérablement adapter le curriculum pour en particulier l'un de ses élèves autistes. Hein. Par exemple, elle avait pu faire venir des animaux, les animaux préférés de l'élève autiste, directement dans la salle de classe.
Et ça l'avait aidé sans doute à faire ses apprentissages. Il y a d'autres salles de classe qui vous ont marqué au cours de vos voyages ces dernières années, Joseph ?
Oh oui, j'ai pu en visiter beaucoup hein, dans les îles du Pacifique, en Afrique également. Ce qui m'a souvent marqué là-bas, c'est le caractère ouvert des lieux. Hein. En France métropolitaine, parfois, les écoles deviennent de plus en plus des camps retranchés, barricadés. Mais ce n'est pas vrai ailleurs. Et à chaque fois que j'ai mis les pieds dans ce genre d'endroit, l'accueil était fabuleux et j'en suis sorti ému.
Et vous y alliez dans quel but ?
Ah, mais pour que les élèves rencontrent un autiste, une personne handicapée. Mais de fait, c'est, je crois, la rencontre avec un occidental qui était souvent la plus frappante pour les petits. Hein. Et les premières fois, j'avais une grosse appréhension, hein, celle de déranger, de perturber les cours. Hein. Une prof d'une école insulaire du royaume de Tonga m'avait tout de suite mise à l'aise. Non, je ne dérangeais pas. Au contraire, ma seule présence était précieuse pour les apprentissages des élèves. Et en entendant ces mots, j'avais remarqué à ce ce moment-là les dizaines de pères gueurons dans la pénombre qui me regardaient. Alors, dans la pénombre, bien sûr, car l'école n'avait pas d'électricité. Hein. Peut-être qu'ils n'avaient jamais vu de près un occidental de leur jeune vie. Hein. C'est là que j'ai compris une phrase un peu mystérieuse que m'avait dite mon ami Patrick, hein, qui un jour avait décidé de tout laisser tomber en France pour partir vivre dans le Pacifique. Ce qu'il avait décidé à partir, c'était la vue des enfants polynésiens, leurs yeux ronds, leur étonnement. Alors on comprend qu'un autre monde est possible et que mieux encore, nous pouvons le bâtir, nous, par-delà les mers.
On peut tous comprendre sans doute cette envie d'aller vivre dans le Pacifique. Cela dit, regardons aussi les yeux des enfants ici, parce qu'ils sont curieux partout, les enfants. Merci beaucoup Joseph, merci, à dimanche prochain.
À tout bientôt.
Voilà, il est temps de refermer ces carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez retrouver l'émission et les reportages sur europe1.fr, sur la page des carnets. Dans quelques instants, la voix est libre. On ouvre beaucoup d'autres livres avec vous, Nicolas. Quel est le programme, Nicolas Caro?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de poésie. Mais oui, ça Chouette. Existe encore, puisque Mathias Malzieu et Daria Nelson publient un recueil de poésie. On va parler de ça. Et puis, on visitera la bibliothèque de Philippe Labro.
Super, ça va nous faire du bien, un peu de poésie par les temps qui courent.
Ah oui.
Merci. Un grand merci aussi à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. Et ensemble, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien surtout.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.